Bienvenue dans la rubrique culture de Radio Nizza. Je suis Antonella Fava et aujourd'hui je vous parle d'art et plus précisément de l'exposition qui se tient au musée de Vence du 3 février au 28 avril. Images en mouvement avec des œuvres de Fernand Léger, Raymond Hens et Jacques Villéglé, Vincent Brocaire, Boris Labbé, Jérôme Alavena et Jeanne Susplugas. Il s'agit d'un parcours historique d'artistes visuels qui ont expérimenté et expérimentent encore les potentialités de l'image en mouvement. Dès l'invention du cinéma, en effet, ce médium a immédiatement suggéré son utilisation dans le domaine artistique et toute une production de films d'animation, de vidéos et d'installations s'est développée au fil du temps en suivant les avances techniques et technologiques de ce monde en perpétuelle évolution. À partir des figures historiques telles que Fernand Léger et le duo Hens-Villéglé, l'exposition rassemble différentes expériences d'images animées contemporaines. La première salle au rez-de-chaussée est justement consacrée à Fernand Léger, véritable pionnier de l'expérimentation, qui a tourné Ballet mécanique en 1924. Ce court-métrage hypnotique et abstrait est une révolution dans le cinéma expérimental. Le plan répétitif et la décision de ne pas écrire des scénarios ont choqué le monde du 7e art. Dans un article publié en 1922, Léger expose sa conception du cinéma. Il écrit que cette formidable invention donne vie aux images en les dispensant des textes, des descriptions, des perspectives, des sentimentalités et d'acteurs. Réalisé en collaboration avec les cinéastes américains Dudley Murphy, spécialisé dans la synchronisation des images et de la musique, et avec la participation de Marey, le ballet mécanique est né d'une composition du musicien Georges Anteil, pour laquelle il cherchait un accompagnement cinématographique. Léger propose de financer le film et d'en superviser la production. Le résultat est une œuvre qu'il aimait appeler le premier film sans scénario. Une deuxième salle nous fait découvrir le travail de Hens-Villéglé qui, au début de l'année 1950, travaillent ensemble sur un projet de film expérimental. Raymond Hens avait mis au point une machine, l'hypnagogoscope, qui permettait de filmer des objets à travers de grandes lunettes cannelées afin de créer des déformations formelles. Les deux artistes réalisent alors des grands collages colorés inspirés des couleurs de Matisse, de costumes folkloriques bretons et des mosaïques de Ravenne, en commençant à tourner un film muet qui restera inachevé et prendra le nom de Pénélope en 1954. À l'époque contemporaine, le bricolage a été remplacé par la technologie. Les œuvres de Vincent Brocaire en sont un exemple. Il s'agit d'animations monochromes qui s'amusent à brouiller les frontières entre le réel et l'imaginaire, explorant les liens entre la nature et les nouvelles technologies. L'artiste s'interroge sur l'intrusion de la technologie et l'influence des interfaces numériques dans notre vie quotidienne. Dans ses œuvres, l'écran se transforme d'élément séparateur en une sorte de fenêtre magique qui montre, comme dans une radiographie de l'imaginaire, un monde secret et inattendu en mouvement, là où il semblait que rien ne bougeait. On trouve ensuite les œuvres de Boris Labbé qui, à partir de sa propre pratique du dessin, associe les techniques numériques à celles propres au cinéma d'animation. Boucles, répétitions, motifs, métamorphoses et mouvements perpétuels sont devenus des ressources essentielles de son langage audiovisuel. L'exposition présente deux de ses vidéos, Orogenesis et Kyriel. Emblématique de la notion même du dessin, les œuvres vidéo de Jérôme Alavena jouent avec l'apparition et la disparition. Ces images flottantes apparaissent et disparaissent simultanément et sont en quelque sorte une exploration de la quatrième dimension, le temps. En rendant une projection bidimensionnelle d'objets flottants dans l'hyperespace, elle suggère des formes qui, d'une certaine manière, le transcendent et le traversent. L'avènement de la réalité virtuelle a poussé l'exploration de l'image en mouvement encore plus loin. L'artiste montpelliéraine Jeanne Susplugas a fait de la réalité virtuelle le support de plusieurs de ses œuvres. Dans « I will sleep when I'm dead », exposé à Vence, elle nous invite à explorer l'intérieur d'un cerveau à l'aide d'une visière de réalité virtuelle. Emprunté à une chanson du groupe de rock Bon Jovi, le titre de son installation fait référence à nos pensées, si difficiles à apprivoiser. À travers cette œuvre, le visiteur, équipé d'une visière de réalité virtuelle, est invité à s'immerger dans une boîte crânienne entre neurones et synapses, à se perdre dans un labyrinthe infini et à croiser des pensées matérialisées par des dessins. Les parcours sont multiples et un capteur de regard, qui suit l'objet vers lequel le spectateur est attiré, en choisira un différent à chaque fois, créant ainsi une expérience liée aux pensées de chacun. Les dessins présentés sont issus d'entretiens menés par l'artiste entre 2017 et 2020 avec des personnes à qui Jean Susplugas a demandé de partager des pensées afin de réaliser de neuroportraits de leur cerveau. Après avoir apprécié sa récente installation in situ à la citadelle de Villefranche-sur-Mer cet été, Radio Nizza a eu le plaisir d'interviewer l'artiste qui nous a raconté de sa participation à l'exposition de Vence et du travail qu'elle y présente. En quoi vous sentez-vous partie prenante de cette lignée qui, à partir du ballet mécanique de Fernand Léger, s'est programmatiquement inscrite dans une perspective expérimentale et quelque peu avant-gardiste ?
Alors c'est vrai que l'exposition de Vence s'inscrit dans une vision comme ça expérimentale de l'image en mouvement. Et je dois dire que je suis très touchée d'être dans cette exposition, qui est aussi une exposition historique. Je ne sais pas si je me situe exactement dans une perspective expérimentale ou avant-gardiste. La réalité virtuelle, elle existe déjà depuis longtemps. C'est vrai que ça reste expérimental au point de vue technique déjà, technologique, puisque les casques évoluent rapidement. Le casque qui est par exemple là dans l'exposition, c'est le Quest 2. C'est un casque qui permet de ne pas avoir de connexion à un ordinateur, donc pas de connectique. Et il apporte une vraie légèreté, simplicité dans l'expérience. Donc ça, c'est relativement nouveau. Hein. Ça a peut-être 5 ans, quelque chose comme ça, 5-6 ans. Ensuite, par rapport aussi à la technologie des logiciels qui permettent de faire de la réalité virtuelle, qui sont de plus en plus performants. Et aussi le fait qu'on est pour l'instant peu d'artistes à vraiment s'approprier ce médium. Mais bon, il y en a quand même, hein, je ne suis pas du tout isolée. Mais ça reste très souvent lié à une culture du jeu vidéo, donc avec une sorte de, peut-être inconsciemment, une sorte d'obligation à une filiation au jeu, avec des effets sensationnels et autres. Je me suis moi-même posé ces questions quand je me suis questionnée sur la réalité virtuelle. J'ai eu envie de garder quelque chose de cet héritage du jeu. J'ai tout de suite écarté tout ce qui était sensationnel, en mode, je sais pas, Super 8, ascenseur, effet de vertige, etc. Mais dans la navigation, j'ai eu envie de garder cet aspect ludique. Et c'est pourquoi j'ai utilisé le système de eye tracking, donc un système qui capte le mouvement des yeux et qui permet en fait une navigation personnalisée.
Le voyage proposé par le travail que vous présentez dans cette exposition est un voyage à l'intérieur du cerveau. En portant la visière 3D, nous sommes au milieu d'un réseau de synapses, d'où jaillissent vos dessins qui représentent nos pensées, nos émotions, nos phobies. Le titre « I will sleep when I'm dead » semble suggérer que toute cette activité cérébrale est une condamnation.
C'est intéressant d'utiliser le mot de condamnation, je ne l'avais pas envisagé comme ça. En fait, pour moi, c'était plus l'idée du titre, « I will sleep when I'm dead », c'était plutôt l'idée de qu'on a une espèce d'activité cérébrale permanente, et voire parfois obsessionnelle, et très souvent, c'est très fatigant, et on aimerait juste sortir de son cerveau. Moi, je rêverais d'avoir une touche off pour prendre des vacances de moi-même, mais ça marche pas. Donc, on nous parle de méditation et autres techniques, ce que je pratique, mais c'est jamais assez reposant. Donc, c'était plutôt dans ce sens. Et aussi dans une forme d'urgence. C'est-à-dire que, alors peut-être que là, ça rejoindrait cette idée de condamnation, bien sûr. C'est que oui, il y a une. Je ressens, mais on est beaucoup à ressentir cette forme d'urgence. L'urgence de vivre, hein, tout simplement, mais aussi dans cette expérience de la vie, de pouvoir en faire un maximum. Donc c'est autant lire, danser, rire, apprendre, voilà. Donc oui, quelque part, dans ce sens-là, il y a une forme de condamnation. Le mot peut être un petit peu comme ça, dit comme ça, un peu radical. Mais bon, finalement, cette radicalité, elle est dans le titre. Mais dans le titre, j'ai introduit... Enfin, c'est pas une expression qui est à moi. Elle est issue d'une chanson, mais aussi, c'est une expression qu'on utilise régulièrement. Il y a quelque chose de peut-être plus... une sorte de dimension de cynique, mais assez drôle, finalement. C'est une radicalité qui est amusante. Enfin, moi qui m'amuse.
On peut retrouver beaucoup de vos thèmes récurrents dans l'œuvre, le cerveau, les addictions, la maison, mais la façon dont le public assiste à cette œuvre est très précise. Elle implique que l'on se trouve dans une situation presque claustrophobique. Et comme dans une addiction, on est exclu du contexte réel, dont on ne reçoit pratiquement plus de stimulation, et absorbé par une réalité illusoire qui nous rend en quelque sorte absent. La technique utilisée est donc très importante, et même si l'on peut simuler le contenu de l'œuvre avec une vidéo bidimensionnelle classique, en réalité, elle ne peut être pleinement appréciée que de cette manière. Avez-vous déjà pensé à la possibilité de vendre vos œuvres sur ce support également ?
En effet, le choix de la réalité virtuelle pour ce projet était vraiment quelque chose de très important. En fait, ça faisait des années que je tournais autour de ce médium et que j'avais vraiment envie de l'utiliser, de l'expérimenter. Je cherchais un peu le bon, entre guillemets, le bon projet pour le bon médium. Mon travail, de toute façon, c'est ça, c'est ce qui m'intéresse, c'est d'expérimenter des nouveaux médiums, et le médium est au service des idées. Donc c'est toujours quel sera le meilleur médium pour l'idée que j'ai envie d'exprimer. Donc je tournais autour de ce médium, et en 2016, j'ai commencé à échanger avec plusieurs neuroscientifiques de l'Institut Pasteur, mais un en particulier, et de parler des idées, du fait que finalement on savait assez peu de choses sur le cerveau, hein, sur comment naissent les idées, comment naissent aussi les rêves, les cauchemars, etc. J'ai commencé à dessiner des synapses, et surtout j'ai tout de suite réalisé des portraits de gens. En fait, je demandais à des gens de me livrer leurs pensées immédiates. Voilà, comme ça, une dizaine, une quinzaine de pensées, sans trop réfléchir. Et donc, très vite, il me disait, ben, il faut que je pense, je sais pas, aller faire des courses, il faut que je pense aller chercher mes enfants à l'école, il faut que je pense à réserver des billets de train. Et au fil de cet entretien, qui est généralement assez court, hein, très vite, quand même, arrivent des pensées plus profondes, plus obsessionnelles. Des gens qui vont me dire « j'ai très peur de la mort, je pense beaucoup à la maladie, je suis très inquiet par rapport à l'argent, je subis de la violence au travail, j'ai des problèmes, je vis des violences intrafamiliales, etc. etc. » Et moi, j'ai commencé à aller sur Internet et à regarder un petit peu comment on matérialisait ça. Si des gens me parlaient de la mort, souvent les gens imaginent un crâne ou une faucheuse. Donc voilà, je me suis inspirée de ces descriptions ou de ces dessins que j'ai trouvés pour essayer de créer un langage relativement facile à décrypter qui pourrait être pseudo-universel. Et quand j'ai commencé à montrer ces dessins, je me suis rendu compte très vite que, en fait, les gens, ça devenait quasiment des dessins interactifs. Les gens se demandaient tout de suite si c'était un homme ou une femme, ce que je trouvais très marrant. J'avais pas du tout envisagé ça. Je trouvais ça très binaire, mais ok, pourquoi pas. Et les gens se réappropriaient des histoires ou se re-racontaient des histoires. Et donc j'ai poussé ce projet avec un petit programme Snapchat. J'étais invitée pour une expo au Bon Marché, pour une marque. Et en fait, l'idée, c'était que les gens prennent leur téléphone. Et donc sur Snapchat, ils soulevaient leurs sourcils et hop, ils avaient un petit voyage dans leur propre cerveau de 10 secondes. Et en fait, pareil, je me suis rendu compte que les gens se faisaient avoir, hein, aussi entre guillemets, juste en 10 secondes. Ils me disaient « Ah, mais comment vous avez réussi à savoir à quoi je pensais ?» Et je disais « Mais c'est juste un petit programme, c'est un algorithme, donc moi je sais rien, c'est juste pour s'amuser. » Et en fait, je me suis dit « Ah, mais voilà, c'est ce projet qu'il faut que je fasse en réalité virtuelle, parce que finalement, le cerveau, l'infini du cerveau, c'est aussi l'infini de ce médium qu'est la réalité virtuelle. » Et ça me permettait aussi de donner à voir et d'expérimenter énormément de pensées. Donc en fait, une fois que j'ai commencé à travailler sur ce projet, j'ai réalisé une résidence à Arles pendant les rencontres de la photographie pour rencontrer des professionnels et voir un petit peu par quelle boule prendre, parce que c'est vrai que c'est pas évident de se plonger dans des médiums comme ça qui nécessitent quand même un travail d'équipe. Et donc j'ai eu la chance très rapidement de faire un dossier et d'avoir des soutiens financiers. Donc j'ai pu le réaliser relativement vite, quoi. Et ensuite, à la question sur la possibilité de vendre des œuvres sur ce support, en fait, j'ai été invitée à pas mal de festivals, parce que depuis septembre 2020, en fait, l'expérience voyage non-stop dans des lieux en plus très différents, du centre d'art au musée, à la galerie, mais aussi à des rencontres art et sciences, ou même des rencontres purement scientifiques. Et j'ai même participé à des tables rondes avec des médecins, neurologues, neuroscientifiques, psychiatres, spécialistes du rêve. Donc ça m'a embarqué dans des aventures vraiment très passionnantes et très aussi amusantes. Et j'ai été invitée il y a quelques mois à un festival aux Maldives. Et en fait, j'ai réalisé une sorte d'expérience qui est la base est la même que à We Sleep When I'm Dead, avec une customisation par rapport à des sujets liés aux Maldives. Et en fait, la pièce a été achetée par le festival et la collection. En fait, hein, c'est une collection particulière qui est donc en accès libre pour tout type de visiteurs. Et c'est aussi quelque chose qui m'intéressait beaucoup dans ce projet, c'est que ça touche un public très très large qui n'a pas forcément de connaissances en art contemporain.
Imaginez-vous un avenir dans lequel les œuvres d'art seront achetées sur un App Store plutôt que dans une galerie d'art ?
Il y a déjà des plateformes qui existent par rapport à la diffusion de ce genre de projet. Je fais partie d'une plateforme qui s'appelle Radiance, qui a été créée par une curatrice allemande qui s'appelle Tina Sauerlander, qui est en fait une plateforme qui permet de visionner, d'uploader les expériences. Il y a aussi d'autres plateformes qui se mettent en place en France, notamment par mes producteurs Lucine Reality, qui vont sortir une plateforme là dans les jours qui viennent sur pas mal d'expériences existantes et à venir.
Parlez-nous de la manière dont l'œuvre a été créée, de la complexité d'un travail aussi immersif et du type d'outils utilisés.
J'ai un petit peu évoqué la technique. Alors évidemment, un projet comme ça, ça demande pas mal de connaissances et on est obligé de mettre en place une petite équipe, des gens qui vont éventuellement coordonner, un codeur et moi dans mon cas aussi une graphiste 3D, puisque le challenge technique de cette expérience était de faire cohabiter de la 2D avec de la 3D. Donc ça, c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup, puisque l'expérience, une des questions aussi, c'était où est-ce qu'on en est du dessin aujourd'hui ? Est-ce qu'on est légitime de continuer à dessiner ? Comment on peut le faire aller ailleurs ? Et la difficulté technique, c'était surtout de faire ressembler la 3D à mon dessin 2D. Donc il y a des dessins en 2D qui sont comme de la fausse 3D. En fait, c'est de la 2D. Et pour que les formes 3D ressemblent à mon dessin, il faut sculpter la forme et ensuite il faut la texturer avec mon dessin, quoi. Donc voilà, ça c'est des questions techniques. Moi j'ai été accompagnée parce que c'est quand même, même si l'expérience paraît relativement simple quand on la regarde, et c'était mon idée, mon envie, en fait, derrière, c'est assez complexe. C'est comme une sorte de jeu vidéo qui fait des hectares. C'est comme s'il y avait des hectares de jeu avec tout un système de rails qui permet de naviguer en fait à l'intérieur de l'expérience. Donc ensuite, j'ai travaillé aussi avec un compositeur, Vincent Lagadrière, Superpost Studio. Et lui, son rôle était vraiment important parce que je ne voulais pas qu'il y ait de sous-titres ou de surtitres, qui est quelque chose d'assez compliqué en réalité virtuelle, qui aurait pu perturber le côté onirique de l'expérience. Et donc, je lui ai écrit des textes pour chaque pensée active, donc il y en a une trentaine. Et à chaque fois, je dis, voilà, j'aimerais que là, on commence par quelque chose de joyeux, qui fait penser à ça, ça ou ça, et qu'à un moment donné, ça devienne plus grinçant et qu'on rentre dans quelque chose de plus angoissant, etc. Et donc, il a parfaitement, à mon goût, répondu à la commande. Et je suis très heureuse de toutes les émotions par lesquelles aussi ce son et cette musique nous font passer. Et voilà, et ensuite, il faut bien sûr, pour avoir des aides, il faut déjà avoir des producteurs, parce que ça, c'est un aspect que moi, je connais assez peu. Je suis relativement indépendante dans mes productions, etc. Ça se fait plutôt directement avec la galerie, le centre d'art ou le musée. Mais là, c'est un petit peu plus complexe que ça. Il faut vraiment quand même avoir un petit peu de financement en amont pour pouvoir financer l'équipe. Donc voilà, si j'ai pu répondre à toutes vos questions, merci, au revoir.
Nous remercions Jean Susplugas de nous avoir offert un voyage en profondeur dans son œuvre incroyable. Pour les vrais voyages, ou plutôt pour le voyage dans la réalité virtuelle, nous vous invitons au musée de Vence, où vous pourrez faire l'expérience de votre propre voyage dans « I Will Sleep When I'm Dead ».